Il est 9h41 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Il était une fois la vie, le dessin animé de toute une génération enfin restauré. Il revient à la télé dès demain matin sur France 4. La folle histoire du corps humain qui personnifiait chaque enzyme et chaque lymphocyte B et mettait en scène avec force musique et bruitage d'inénarrables batailles contre les virus et les toxines. Bonjour Hélène Barillet.
Bonjour.
Et Albert Barillet, grand producteur d'animation française, était votre époux. Il est décédé il y a quelques années. C'est lui qui a donné naissance à la saga des Il était une fois, il y en a eu plusieurs des sagas des Il était une fois. On y vient juste après l'actu, la Madeleine et Philippe Vandel. Salut Philippe.
Bonjour Sonia.
Qui fouille les recoins du pardon ce matin.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors hier, le syndicat des agences médias interrogeait les candidats ou leurs représentants sur les programmes concernant les médias programmes pour l'élection présidentielle. Benoît Hamon crée des remous. Il dénonce la surconcentration du secteur, veut interdire à un groupe de posséder plus de 40% du capital d'une entreprise de médias ou de dépasser le seuil des 20% dans plus de deux médias. Alors si les actionnaires avaient à revendre leur part, car beaucoup ne se conforment pas du tout à ces futures nouvelles potentielles dispositions, ils auraient donc 2 ans pour se conformer à une nouvelle loi antitrust. Benoît Hamon leur laisserait donc 2 ans pour s'organiser. Vive réaction du côté des groupes privés, bien entendu, qui dénoncent un carcan et un repli sur soi face aux mastodontes du marché mondial et surtout face aux géants du numérique. Benoît Hamon, qui ajoute vouloir étendre la redevance à tous les écrans et débarrasser France Télévisions de la publicité. C'est l'heure de l'instant Madeleine, c'est vendredi. Ce matin, je vous offre une saga documentaire passionnante, la saga des immigrés que réédite Lina. Passionnante pourquoi ? Parce que de 1960 à 1990, tous les genres télévisuels sont passés au crible. Pour comprendre comment la télévision française a traité le sujet au gré des époques, évidemment c'est le miroir de tous ces regards de société. Pour gagner ce DVD, vous devez être le premier à envoyer un mail à l'Instant M, tout attaché, l'instantm@radiofrance.com. Alors attention, je vous demande le nom d'une grande voix du doublage française. Alf, c'était lui. 6-3-PO, c'était lui. Winnie l'ourson, c'était lui. Kermit, c'était lui aussi. On l'écoute dans Astérix.
Alors Astérix, rien de spécial ?
Non. Ah si, j'ai assommé 4 Romains.
Ah bon ?
Dis Obélix, tu viens manger le sanglier avec moi ? Tant que Panoramix continuera à préparer sa potion magique. Mais j'y pense, c'est le jour de ma ration. Allons voir le druide.
Qui était la voix d'Astérix ? L'Instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous. Philippe Vandel.
Mince, je tournais la page du bon côté. J'y suis. Quel est le point commun entre François Fillon, Patrick Sébastien et les Oscars ? Les excuses.
Oui, parce que heureusement que vous nous le suggérez, parce que j'y avais pas pensé.
Vous avez vu le pataquès des Oscars. Oui, oui, Warren Beatty prend la mauvaise enveloppe, il annonce par erreur La La Land alors que c'était Moonlight qui avait l'Oscar du meilleur film. Eh bien, le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers, qui gère les votes des Oscars depuis 83 ans, a présenté ses excuses alors qu'ils n'y sont pour rien. Le 6 février, c'est la fameuse conférence de presse de François Fillon qui a fait travailler Pénélope et deux de ses enfants, son épouse Pénélope. Il a mis les choses au point.
C'était une erreur. Je le regrette profondément. Et je présente mes excuses aux Français.
Il s'excuse et il continue. Emmanuel Macron maintenant, interrogé par une télévision locale algérienne, il a évoqué la colonisation.
C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
Alors il a parlé de crime contre l'humanité, il a présenté ses excuses et là, tollé à droite, Emmanuel Macron a été sommé de faire des excuses pour avoir demandé des excuses. Et quelques jours plus tard, le candidat est en meeting à Toulon et le correspondant sur place de BFM TV est formel.
Colonisation, cette polémique qui a occupé toute une partie de son discours, il persiste et signe ici à Toulon en parlant à nouveau de crime contre l'humanité, mais il s'excuse auprès de ceux qu'il a pu blesser. Écoutez.
Ah bon, il s'excuse encore ? Ben écoutons.
Je ne vais pas retirer mes propos. Je ne vais pas m'excuser ou faire moi-même de la repentance.
Donc il s'excuse pas. Non. Alors à la décharge de l'envoyé spécial de BFM, faut dire qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui s'excuse énormément. Quand il était ministre de l'économie, il s'est inquiété pour l'avenir des employés de l'abattoir GAD à Lampol dans le Finistère qui risquaient de perdre leur emploi. On écoute.
Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées.
Et ce mot illettré avait provoqué un tollé. Oui. Et Emmanuel Macron s'en était excusé à l'Assemblée nationale devant les députés.
Mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j'ai blessé à travers ces propos. Et je ne m'en excuserai jamais assez.
Or, selon le député du Finistère, M. Buy, la proportion de salariés illettrés dans l'usine GAD est environ de 20% contre 7% en moyenne nationale en France, c'est-à-dire trois fois plus. 20% d'illettrés, c'est beaucoup, c'est énorme. Et bien, devant la pression, Emmanuel Macron s'est excusé pour avoir dit une chose exacte. On en est là. Quand ça va mal pour lui, Macron s'excuse. Quand ça va bien pour lui, Macron s'excuse. Exemple, son meeting à Quimper, il est allé voir les gens qui étaient à l'entrée de la salle.
Il y a plus de 2500 personnes, on ne peut pas aller plus loin. Et on ne peut pas continuer à remplir la salle. Donc je voulais venir personnellement m'excuser auprès de vous pour vous dire qu'on ne pourra pas faire entrer tout le monde.
Alors c'est une tendance qui monte, on rigole, mais tout le monde s'excuse pour tout et n'importe quoi, y compris le gars qui a fait un mauvais score en prime time, d'abord sur les réseaux sociaux, puis comme ça suffit pas, il fait une vidéo.
Je me suis déjà excusé sur Twitter, je me suis excusé auprès des gens qui m'aiment bien, pas de ceux qui m'aiment pas, ceux-là... Je les ai régalés. Je me suis excusé auprès des gens qui m'aiment bien, ceux qui ont l'habitude de nous suivre.
Alors c'est comme pour Astérix, vous avez reconnu la voix de Patrick Sébastien. Après une émission ratée samedi soir sur France 2, alors je m'excuse auprès de tous les gens qui n'avaient pas reconnu la voix, auprès de tous les gens qui sont reconnus, dans cette chronique, je m'excuse.
Je m'excuse ou je présente mes excuses?
Quand j'étais petit, on m'a dit, on présente ses excuses. Mais,
c'est ça.
Mais j'avais pas le temps de le dire dans mon texte.
C'est ça,
mais je l'avais écrit ici.
Je présente mes excuses et je demande pardon. Alors, nous avons un gagnant. Le gagnant s'appelle Raphaël. Il a reconnu la voix de l'immense Hélène Barrier. Je vous laisse le dire.
Roger Carrel.
L'immense Roger Carrel, dont vous connaissez, Hélène Barrier, chaque intonation, le timbre absolument par cœur, puisque Maestro, votre héros des sagas, il était une fois, c'était lui aussi.
Un chromosome endommagé?
C'est le chromosome 4!
Il y a risque de mutation provoquée par un polluant chimique.
Ce serait le...
Oui, le cancer, si la cellule déréglée arrive à se multiplier. Et quand elles deviennent nombreuses, c'est mauvais, très mauvais. Elles envahissent les bonnes cellules et les empêchent de fonctionner. Mais ne paniquons pas.
Hélène Barrier, je voulais vous demander comment est né ce personnage de Maestro. Maestro chevelu, il avait une barbe qui lui arrivait jusqu'au pied, des cheveux qui lui arrivaient jusqu'aux genoux et une combinaison de spationautes. Comment il est né?
Écoutez, il est né dans la tête d'Albert Barrier, évidemment. Mmh. Qui
ne ressemblait pas du tout à ça.
Non, il avait les cheveux blancs. Il a eu les cheveux blancs très très tôt.
Oui. Mais pas jusqu'aux genoux.
Et une moustache, non. Pas jusqu'aux genoux. Mais il avait besoin d'un personnage qui puisse suggérer ou créer des blagues.
Oui.
Alors, se prendre les pieds dans la barbe, c'est quand
évidemment
même facile. Et faire plein de blagues avec une barbe, c'est top. Une barbe aussi, c'est une boîte à malice et à secrets d'où on peut sortir plein de choses. Et donc, Maestro...
Et puis, c'est toutes les années 70, quand même.
Oui, exactement.
C'est toutes les années 70. Et puis, il y a quelque chose de très beau dans ce personnage, parce qu'il est maître du savoir. D'ailleurs, oui. Tout le monde l'appelle maître dans les dessins
maestro,
animés.
Exactement.
C'est lui qui porte la connaissance, l'explication, qui prend les décisions. Et en même temps, c'est une connaissance qui dort tout le temps. Roupie, Maestro, il faut le secouer chaque fois qu'il y a urgence.
Il était une fois la vie, oui, il dort souvent. Mais il reste toujours connecté,
oui.
Et on tient toujours à bien montrer ses deux antennes, parce que dans sa barbe blanche,
c'est vrai. Oui, c'est
il
vrai,
a deux
oublié.
Antennes. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Philippe Vandel, vous vouliez nous raconter quelque chose sur les voix de dessins animés?
C'est quand le premier dessin animé d'Astérix était sorti, je ne savais pas, oui, que vous alliez passer un extrait d'Astérix, il y a un petit garçon qui avait écrit à Goscinny et Uderzo, en substance il a dit « Je suis très déçu, Obélix n'a pas du tout la même voix que dans les albums. »
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors voilà, ça a été un énorme travail. Vous remasterisez, vous restaurez négatif après négatif les sagas de Il était une fois. On va dire un mot sur Albert Barrier, qui est mort en 2009. C'est l'homme qui a créé Collar Gol. Patrick Cohen s'en souvient, il a fait un bond sur son fauteuil ce matin pour la télévision française. On était à la fin des années 60, l'ORTF. C'est un des grands, grands noms de l'animation française. En 1978, il donne naissance à cela. Voilà, l'aventure a commencé avec Il était une fois l'homme, 5 minutes tous les soirs. Moi, j'en ai des souvenirs d'enfance, mais vraiment très très précis. Et puis tout l'épisode le samedi voilà. Exactement. Ça a été un succès planétaire, vraiment planétaire. Ça a été diffusé dans 120 pays. Là, c'est pour le coup, c'était toute l'histoire de l'humanité qui est retracée, racontée par ce maestro. Comment Albert Barillet a imaginé cette saga? Comment ça lui est venu? Comment il a convaincu les diffuseurs de l'époque?
Alors déjà, depuis très très jeune, il voulait raconter l'histoire de l'humanité. Mmh. Et il voulait aussi, un peu plus tard, quand il a commencé à travailler pour le cinéma, il a vu que la télévision était le média de l'avenir. Et très vite, il a vu que les enfants allaient passer du temps devant la télévision. Et il s'est dit, il n'est pas question que les enfants perdent leur temps devant la télévision. Il trouvait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de programmes pour eux. Donc il s'est dit, moi, je vais faire des programmes pour les enfants et je vais essayer de faire des programmes intelligents, si on peut dire, où ils s'amuseront et où ils apprendront plein de choses.
Alors, Il était une fois l'homme, c'est 78. Oui. Ensuite, il y a eu Il était une fois l'espace. Et puis, il y a eu donc La vie, oui. La vie, Michel Legrand. Voilà, donc Michel Legrand qui signe ce générique. Entre-temps, tout le manga japonais déferle sur les écrans, puisque moi je suis de la génération aussi de Goldorak et Albator. Comment on pourrait décrire les dessins de Jean Barbeau? Parce que pour moi, ils sont beaucoup plus de la famille de la BD belge, hein, peut-être beaucoup plus du côté du journal de Spirou que du côté de l'animation japonaise.
Eh bien, Jean Barbeau était français. Voilà, sorti de l'école, tout jeune sorti de l'école, et il a eu cette personnalité que Albert a trouvé incroyable. Il faut savoir qu'Albert a sillonné le monde avant de trouver ce talent qui finalement était tout à côté de
Les négatifs étaient très abîmés. Dans quel état étaient les bandes?
Les négatifs d'Il était une fois l'homme étaient un petit peu abîmés. Il y avait un peu de moisissure, etc. Mais ils étaient complets. Il y en avait 26, un par épisode. Quant à ceux d'Il était une fois la vie, il nous en a manqué 7.
D'accord.
Mais on a eu la chance de travailler avec un studio, enfin un laboratoire qui a fait de superbes recherches et un très très beau travail qui s'appelle Microcinimage, qui s'était déjà, si on peut dire, entraîné sur Il était une fois l'homme, si bien que pour Il était une fois la vie, quand on n'a pas eu 7 négatifs, ils ont trouvé des moyens de pallier le problème.
Ils les ont recréés. On va écouter, il y a une grosse baisse de morale du côté de chez les bactéries.
Dites-donc, chef, où on va?
Il y a plus d'eau.
Et rien à bouffer, hein.
Une cellule a infecté.
On va mourir de soif.
Et faim.
Et comment?
Cessez de pleurnicher comme ça, Froussard.
Ils savent même pas ce qu'ils sont.
Bon, on est des bactéries.
Et les bactéries, ça infecte.
Bien sûr que vous êtes des bactéries, y'a pas de doute, mais de quel genre? Oh, ben des bactéries nocives, ça va de soi, bien sûr. Bande d'ignorants, vous ne connaissez même pas votre nom. On est des bacilles de Nicolaïer, les microbes du tétanos.
Donc le principe, c'est de personnifier chaque composante du corps humain. Hein. Alors les organes sont plutôt représentés comme de grandes machines. Hein. On se balade à l'intérieur du corps humain, voilà, c'est absolument magnifique. Et puis ensuite, alors il y a les messagers du système nerveux qui transmettent leurs messages à moto, les hormones qui sont des robots à hélice, les nutriments qui sont en patin à roulettes, les globules rouges, on se souvient des mots et de globines. Il y a les chefs des virus, hein, Nabo avec son gros nez rouge très très méchant. Les globules blancs, une espèce de patrouille de flics avec des casquettes et des matraques. Et puis, il y a les lymphocytes qui sont Pierrot et Psy, capitaine et lieutenant, qui bombardent des anticorps depuis leur soucoupe volante. Est-ce qu'Albert Barillet travaillait aussi avec des médecins, avec des scientifiques? Comment a-t-il mis au point ce contenu très pédagogique et très précis?
Alors, il a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup lu. Il avait l'idée dans la tête et il a donc beaucoup appris personnellement pour comprendre le fonctionnement du corps humain, pour tellement bien le comprendre qu'il pouvait l'expliquer simplement, le vulgariser
et en parler aux enfants. Voilà.
Il avait un documentaliste qui s'appelait Alexandre Dorozinski, mais lui-même était un bourreau de travail. Il travaillait 100 heures par semaine, c'est ce qu'il disait toujours. Et moi, j'ai vu tous les livres qu'il a lus pour ça.
Alors, il y a toute, évidemment, une dimension, on l'a dit, très pédagogique, mais aussi d'éducation à l'hygiène, à la santé. Oui. Hein, il y a un mélange de morale et de pédagogie. Et l'Express en a même fait un dossier au printemps dernier en se demandant s'il était une fois la vie, n'avait pas créé une génération d'hypochondriaques.
C'est-à-dire
d'enfants qui regretteront toute leur vie d'un jour ne se pas s'être lavé les mains ou d'avoir touché un rosier au risque d'être piqué.
Oui. Et il y avait aussi un épisode sur la bouche et les dents qui est béni par les parents. Parce qu'à chaque fois qu'ils le montrent à leurs enfants, les enfants comprennent qu'il est important de se brosser les dents.
Alors, il n'y a pas que se brosser les dents, parce que je vous fais écouter l'épisode sur la vaccination.
Des toxines, capitaine. Des poisons dangereux. Du tétanos, on dirait.
Du tétanos, oui. Mais tu vois, nous sommes vaccinés et revaccinés. Alors, on a tout ce qu'il faut sous la main pour nous en débarrasser en moins de deux. Tu vas voir.
Des anticorps spécifiques.
Exactement. Alors, on lâche les anticorps. Go!
Je me suis demandé, Hélène Barrier, si c'était pas aussi l'époque où la vaccination n'était pas contestée, où les antibiotiques c'était automatique, c'était l'époque avant le sida. Il y avait quand même une vraie foi en la médecine, peut-être plus.
La vaccination continue à être contestée, mais expliquée comme ça l'est par Albert, ça tombe sous le sens qu'il faut vacciner, peut-être pas systématiquement pour tout, mais il y a quand même des incontournables.
Oui, il y a des incontournables. Est-ce que l'âge des enfants auxquels vous vous adressez a changé ?
Un petit peu, oui. Il a baissé. À l'origine, c'était des programmes destinés aux 8-12 ans. Maintenant, on est plutôt 6-8.
6-8,
mais toujours un programme familial.
C'est ça, à regarder en famille. Oui. Et en même temps, on sent qu'il y a un vrai décalage entre le rythme de ces épisodes de 26 minutes. Alors, il y a beaucoup de bruitages, beaucoup de musique, oui. on l'a entendu. Et en même temps, c'est relativement lent par rapport à l'univers de l'animation aujourd'hui.
C'est vrai que c'est lent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis posé la question à un moment, est-ce que je restaure pas, parce que ce rythme, est-ce qu'il faudrait pas un petit peu raccourcir? Mais en fait, il y a tellement d'informations dans ces épisodes que c'est bien de donner le temps aux enfants d'ingurgiter, puis à la musique de Michel Legrand.
Oui, c'est vrai que c'est bien de donner le temps.
Moi, j'ai une petite
enfants.
Question.
Oui, mais on n'a plus le temps.
Le son est vintage, vous avez rajouté, il y a l'informatique qui est arrivée, vous avez tout laissé tel quel, tous les textes tels quels.
On a tout laissé tel quel. C'est une œuvre d'art. On n'y a pas touché, on l'a restaurée.
Elle est à voir sur France 4 demain matin à 11h45. Elle existe aussi en DVD avec une jaquette tellement vintage que j'ai cru à une cassette VHS. C'est la fin de l'émission. Violaine Ballet, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella, je leur dois tout. Ils travaillent autour de moi et ils travaillent avec moi à mes côtés toutes les semaines.